Deuxième partie de ces matins d'été consacrés à la situation en Érythrée. Nous sommes toujours en compagnie de Cécile Allégra, co-auteur avec Delphine Deloget du documentaire Voyage en Barbarie, récompensé fin mai par le prix Albert Londres. Et nous sommes toujours également avec Franck Guéry, qui est co-auteur, lui, d'un livre édité au PUF, Érythrée, un naufrage totalitaire, avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer. Alors, juste avant le journal, nous évoquions justement ce que vous appelez, Franck Guéry, le totalitarisme failli de ce pouvoir érythréen. Aujourd'hui, quelles sont les options envisageables pour la chute d'Isaias Afewerki, le dictateur érythréen? Est-ce qu'il y a des plans de sortie de crise? Est-ce que la communauté internationale s'en saisit? Est-ce que l'Union africaine est consciente des enjeux, essaye de préparer, d'envisager un après?
Alors, sur l'après, la question, effectivement, par rapport au président Isaias Afewerki, c'est qu'il y a une réalité biologique, c'est qu'il a quand même un âge conséquent maintenant, il serait malade du foie, donc il peut être amené à disparaître prochainement. On ne sait pas quand, néanmoins. Mais il faut comprendre que c'est aussi un système, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre de la terreur quelque part, donc il y a un système qui a intérêt à ce que ça perdure, parce que les militaires, par exemple, et Isaias Afewerki l'a fait de façon très intelligente, leur a permis de s'enrichir, avec le développement de la corruption, avec des expropriations, puisque c'est un état néo-patrimonial, avec le trafic aussi, puisqu'on peut, en payant 5000 dollars, sortir du pays sans problème, en voiture. Hein. Donc ça, c'est l'option 4 étoiles de la fuite, quelque part. Même si la fuite, elle concerne tout le monde, puisqu'il y en a des ministres qui ont fui, l'équipe de football a plusieurs reprises à l'étranger a fui, des pilotes d'avion ont fui avec leur appareil, donc c'est généralisé. Donc ensuite, comment ça peut se passer? Nous, ce qu'on dit avec Jean-Baptiste, c'est qu'on pense que le régime est en déliquescence, c'est-à-dire qu'il y a l'autosuffisance a épuisé le pays, économiquement il est exsangue. Néanmoins, les agents du changement, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément la population, c'est compliqué, c'est pas forcément
à l'extérieur peut-être.
C'est pas forcément non plus les militaires, parce qu'ils n'y ont pas forcément intérêt. Et la question, c'est qu'est-ce que la communauté internationale aussi peut faire? Nous, ce qu'on pense avec Jean-Baptiste, c'est que la question clé, c'est le démantèlement du service national indéfini et le développement d'un secteur privé.
Le service national, que le service militaire est obligatoire.
Un service national obligatoire à partir de 18 ans et il ne finit jamais. Et donc, vous êtes loin de votre famille, vous êtes sous-payé, vous ne pouvez pas former de famille, pas former de projet. Et c'est la raison pour laquelle il fuit. C'est la raison pour laquelle aussi, c'est le point central du totalitarisme et de l'expérience totalitaire.
Cécile Allégra.
Une option, mais je sais qu'on n'est pas d'accord forcément là-dessus avec Franck, ce serait de couper les vivres au régime. Et il y a des...
C'est-à-dire empêcher de collecter l'argent de la diaspora qui le finance en partie.
Ce serait aussi arrêter de verser certaines formes d'aide. Récemment, dans le cadre du protocole de Khartoum, 320 millions ont été versés à l'Érythrée pour que justement ils puissent toiletter ou résoudre, ça dépend des points de vue, la question du service militaire, en tout cas rendre plus vivable. Et c'est toujours, en tout cas à mon sens, une manière de repousser le problème, de renvoyer le pays dans ses cordes. Alors que je vous rappelle que l'Afrique du Sud est tombée quand on lui a coupé les vivres aussi, que l'apartheid s'est terminé dans ce cadre-là.
Franck Guéry, vous dites qu'il faut maintenir une représentation, un contact avec Asmara.
C'est tout le débat, en fait, qui est très intéressant.
Parler,
entre
pas parler, couper
et
ou
la
pas.
Compromission. Ouais. Jusqu'où aller? Est-ce qu'il faut faire de l'aide sur l'agriculture, de l'aide alimentaire? Parce qu'il y a 60% deux tiers des Érythréens qui ont faim aussi. Donc, jusqu'où aller? Et qu'est-ce que cet éventuel engagement permet d'obtenir? Et ce qu'on dit avec Jean-Baptiste, c'est que ce qu'il faudrait, avec le régime actuel ou un suivant, c'est qu'il faudrait se focaliser sur cette question du service national à durée indéfinie. Donc c'est vraiment ce point-là qui permettrait peut-être d'ouvrir le pays économiquement, comme on l'a vu par exemple dans d'autres situations, comme la Chine par exemple, qui s'est ouverte. Et l'économie permet de véhiculer des idées, permet à la population d'avoir une espérance. Et donc ça peut changer, ça peut commencer à former un changement.
La
transition était déjà un petit peu amorcée de l'intérieur en Chine, alors que là, il n'y a aucun signe qu'elle s'amorce d'une manière ou d'une autre, sauf par la force du délitement économique. Donc,
vous ne croyez pas à une transition qui passerait d'un régime totalitaire
pas.
À un peu moins totalitaire, puis progressivement
non,
un retour à une forme
signe,
de démocratie?
Probablement il y aura une révolution ou une nouvelle tentative de coup d'État. En tout cas, c'est ce que les trois quarts des observateurs internationaux voient aujourd'hui. Ils ne voient pas une pérennisation. Alors, je vous rappelle juste qu'en fait, on a une position un petit peu trouble, puisque oui, c'est la deuxième dictature au monde, mais on ne l'a jamais réellement condamnée ouvertement. gouvernement, parce qu'en réalité, elle embête les trois quarts des pays occidentaux qui ont privilégié les rapports avec l'Éthiopie, qui est un bien plus grand pays, avec plus de ressources. Donc on l'a un peu mis sous le tapis, cette Érythrée. Et aujourd'hui, dans cette histoire de trafic d'êtres humains, on est fort gêné, puisqu'on se retrouve avec quoi les tortionnaires sont dans le Sinaï, c'est l'Égypte. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quand même quelques petits problèmes politiques. Le Soudan, on rappelle qu'Omar el-Béchir est sous le coup d'une condamnation de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Donc, comment est-ce que vous amenez Omar el-Béchir à enquêter sur ce qui se passe sur son propre territoire ? Le Yémen, bon, avec les autistes, on ne vous fait pas un dessin. Comment ça serait, c'est intéressant du point de vue du droit. Comment est-ce que vous condamnez ou trouvez un terrain juridique pour faire condamner? Et si vous trouvez pas un terrain juridique, comment est-ce que vous luttez contre ce phénomène qui inévitablement va prendre l'Europe à la gorge dans les années à venir? On est juste au début d'une vague sans précédent, d'une crise humanitaire sans précédent. C'est pour ça que, pour revenir à votre question, mais ce n'est qu'au mon modeste avis, je ne suis pas non plus la plus grande experte en la matière. Le fait de couper les vivres permettrait quand même d'accélérer une transition qui sinon risque de se compliquer du fait du contexte géopolitique qui entoure l'Érythrée. Mais bon.
Et une révolution, le scénario que vous décrivez, une révolution, un chaos civil, c'est aussi compte tenu de la situation géographique du pays, peut-être le risque ou le scénario noir d'une influence ou d'une implantation djihadiste, Franck Guéry ou Cécile Arégrat.
Alors moi je voudrais juste souligner le fait que les Érythréens qui sont partis vers les États-Unis, un certain nombre de membres de l'opposition sont formés par les États-Unis pour le jour où le pouvoir changera, qu'on n'a pas eu l'intelligence de faire de même en Europe. On est un peu en retard par rapport à ça. On n'arrive pas à former, on va dire, les futurs cadres dans nos pays. Et ça, c'est un problème parce que, bon, il y a évidemment des germes du djihadisme dans toute la corne de l'Afrique. Hein, faut pas se mentir. Il y a les Somaliens juste à côté. Donc.
Sur ce scénario noir d'une prise de pouvoir ou d'un...
C'est ce que craignent, par exemple, l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie aurait les moyens de faire tomber ce régime, mais elle craint, elle, d'avoir un troisième État failli à ses frontières, parce qu'elle a déjà le Soudan du Sud, la Somalie. Donc tout le monde redoute le scénario de l'explosion de l'Érythrée et de luttes qui sont, en fait, sous le couvercle du régime totalitaire, parce qu'il y a eu une guerre civile à l'intérieur de la rébellion entre le Front de Libération de l'Érythrée, qui était plutôt à tendance à influence musulmane, et le Front Populaire de Libération de l'Érythrée, plutôt laïque et chrétien orthodoxe. Donc il est possible que ces luttes reviennent. Il faut pas oublier aussi que le Yémen est à quelques kilomètres des côtes érythréennes. Difficile, mais le scénario noir n'est pas impossible.
En tout cas, les opposants se mobilisent. Hein. Il y a un vrai... c'est très délicat d'en parler ouvertement, mais c'est vrai que le régime étant effectivement vieillissant... il y a forcément quelque part une relève qui se prépare.
Quelle est la position de la France vis-à-vis de l'Érythrée aujourd'hui ?
Je ne sais pas si...
Écoutez, au niveau international, il y a eu des sanctions par rapport à ce que l'Érythrée, justement, en fait, que l'Érythrée avait aidé les Chebab en 2009, il y a eu des sanctions. En 2013, le groupe de contrôle de l'ONU concluait un petit peu différemment. Il semblerait que le soutien soit moindre. Le problème aussi, c'est que le régime utilise toutes les sanctions qui peuvent avoir lieu pour conforter son discours. Et donc, il y a aussi cette question-là dans les relations qu'on peut avoir. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui peut être efficace.
Il y a quelques États comme le Canada ou le Royaume-Uni qui ont de facto essayé de couper les vivres. Vous pouvez nous expliquer quelles sont leurs positions.
Donc ce que fait le régime érythréen, c'est que pour avoir accès aux services consulaires, il faut verser une taxe de 2% de ses revenus. Donc ça, c'est un des moyens
de financement effectivement de l'État.
Pour l'Érythrée d'avoir accès à des ressources. Donc ça, les États peuvent faire quelque chose là-dessus. Et c'est ce qu'ont commencé déjà le Canada et le Royaume-Uni à faire. Donc ça peut être positif, effectivement, pour aller dans le sens
de couper les vivres.
Absolument. Puis envoyer les ambassadeurs et puis décider... ça, c'est une vraie coupure diplomatique. Et c'est aussi signifier aux Érythréens, qui sont des survivants de camp, encore une fois, qu'une fois arrivés en Europe... Mais vous voyez l'implication. Ça veut dire que instantanément, ils auraient un statut de réfugiés politiques. Et donc ça demande une mutation majeure dans l'accueil en Europe, alors qu'on sait qu'aujourd'hui les pays européens n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur un guichet commun d'accueil qui permettrait, au lieu que ce soit l'anarchie, de répartir les arrivées dans les 28 pays membres.
Ceci dit, ils obtiennent assez largement le statut
maintenant, mais pas il y a un an.
Alors, et, les derniers chiffres que j'ai, c'est 20% en France. En France, seuls 20% des réfugiés érythréens obtiennent le statut de réfugiés politiques. Les autres sont considérés comme des migrants économiques, c'est ça ?
Alors, les Érythréens, en ce moment, font l'objet d'une attention particulière. Nous avons rencontré récemment M. Pascal Brice, qui dirige l'OFPRA, et c'est vrai qu'il a vraiment motivé ses troupes et porté un effort tout particulier sur l'obtention de statut de réfugié rapide pour les Érythréens. La question, c'est de savoir si tous ceux qui sont... Enfin, si tous ceux qui demandent le statut sont vraiment des Érythréens, parce que maintenant, on sait que les Éthiopiens essayent de se faire passer pour Érythréens, parce qu'ils savent qu'il y a... Voilà.
Mais il y a des pays comme la Suède, par exemple, où vous avez tourné votre documentaire.
Oui, mais est-ce qu'entre-temps, si vous voulez, ce qui est choquant, c'est qu'on continue à voir ce qu'on a vu il y a deux semaines, c'est-à-dire des espèces où les gens étaient balancés par-dessus les grilles entre Menton et Vintimille, comme si c'était des ballons de foot, avec toute leur famille et leurs affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, en Europe, face à des gens qui fuient des réalités comme celle des camps de torture, on peut décemment leur faire ça ? Enfin, sincèrement, sans être angéliste et sans vouloir accueillir tout le monde, vous avez un problème quand même humain majeur là, avec des gens qui sont polytraumatisés, blessés dans leur corps, avec des traumatismes, des séquelles psychiques dont il faudrait déjà, en temps normal, 10 ans pour se remettre. Et nous, on leur fait subir ça par-dessus le marché, ça va pas.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais juste qu'on dise un mot avec vous, Cécile Allégra, d'un colloque qui va se passer dans très peu de temps. Du 24 au 26 juillet, c'est à l'abbaye de Sainte-Foy à Conques.
Oui, absolument.
Votre documentaire sera donc projeté.
Ouais. Voilà, en fait, on a eu une mobilisation très forte des gens, effectivement, après la diffusion de ce documentaire, de gens qui avaient envie d'aider. Et parmi eux, il y avait 6 frères de l'abbaye de Sainte-Foy à Conques qui ont proposé de monter une exposition itinérante dans plusieurs abbayes. Et ils reçoivent 500 000 visiteurs. Et puis, en même temps, c'est ouvert à tout public. Et ils vont organiser un colloque en invitant, justement, les principaux connaisseurs de ce trafic à New l'autre pareil. Et donc ça sera un peu la première fois où on réunit autant de gens autour de cette question, des officiels, des membres de l'OFPRA, des membres d'Amnesty, des chercheurs, des membres du ministère des Affaires étrangères. Donc ça sera un événement qui, on l'espère, participera à l'avancée de la connaissance sur le sujet, puisque c'est un petit peu notre but avec Delphine aujourd'hui.
Très bien, très bien. Rendez-vous est pris donc du 24 au 26 juillet à l'abbaye de Sainte-Foy à Conques. Merci encore d'avoir accepté notre invitation à vous deux. Cécile Allégra, donc auteure avec Delphine Deloget de cet édifiant et excellent documentaire que je vous conseille vivement d'aller regarder, Un voyage en barbarie, prix Albert Londres 2015. On vous met tout ça sur le site des Matins d'été, ainsi qu'un lien vers un très très joli portfolio webdoc que vous avez réalisé. Merci également à vous, Franck Guéry, vous êtes l'auteur aussi avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer de ce livre aux presses universitaires de France, Érythrée, un naufrage totalitaire sur la situation politique dans le pays, mais aussi parce que, même si l'Érythrée vit un drame affreux, un très joli livre de photos, Érythrée entre splendeur et isolement, aux éditions Non-Lieu. Vous nous en dites un mot rapidement de ce livre ?
Oui, tout à fait, parce que l'Érythrée est un pays magnifique aussi, entre mer et montagne, avec une capitale qui est peut-être la capitale du style en Afrique, Asmara, avec des influences art déco, art nouveau, futuriste, avec qu'on appelait parfois la Piccola Roma ou la Miami d'Afrique, et puis aussi Massawa, qui est une ville magnifique, avec des influences venues de la mer Rouge. Donc il y a beaucoup de belles choses à montrer. C'est un espoir pour le futur, pour ce pays, de devenir peut-être un pays touristique quand il aura réglé ses problèmes politiques.
Eh bien voilà, une note d'espoir et de beauté dans ces très très beaux clichés. Érythrée entre splendeur et isolement, cette audition Non-Lieu. Merci à vous deux.